franceinter.fr. La revue de presse de Pascal Dervieux. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous.
Esclavage, la France retrouve enfin la mémoire et le Parisien s'en réjouit ce matin.
Oui, il le fait quelques heures avant que François Hollande inaugure en Guadeloupe le premier mémorial d'État consacré à la traite négrière. On en a beaucoup parlé sur France Inter. On continuera d'en parler beaucoup et pour cause, il aura fallu attendre 167 ans pour que la France honore les victimes de l'esclavage, s'exclame Éric Aquenard, une stupéfaction que partage Lilian Thuram dans les colonnes du même journal. L'ancien footballeur très actif contre le racisme rappelle combien l'esclavage n'est pas, notamment pour les Antillais d'origine africaine, qu'un lointain souvenir. Son propre grand-père est né en 1908, c'était 60 ans seulement après l'abolition. Lilian Thuram se félicite donc du geste que va accomplir le chef de l'État. C'est un geste fort, dit l'ancien footballeur de l'équipe de France.
Demain, après la Guadeloupe, le président de la République sera à Cuba, visite historique, la première d'un président français.
Oui, mais c'est une visite aussi très bordurée, nous prévient Mediapart, puisqu'il n'y sera pas question ni des droits de l'homme, ni d'une rencontre avec l'opposition. Alors que le régime castriste poursuit sa normalisation diplomatique, la France veut d'abord défendre ses intérêts économiques en Amérique latine. Alors, visite historique, certes, Mediapart rappelle que François Hollande est bien le chef de l'État occidental, le premier quasiment à se rendre dans l'île, mais visite petit bras, en quelque sorte, puisqu'elle ne va durer qu'une demi-journée. Pour Mediapart, elle fera forcément pâle figure après la spectaculaire annonce du rapprochement américano-cubain et la poignée de main entre Barack Obama et Raúl Castro. Dans le journal du dimanche, Cécile Amard, elle, ne fait pas la fine bouche. Pour ma consoeur, c'est bien l'histoire qui sera au rendez-vous à La Havane. Elle nous rappelle que si François Hollande n'a jamais succombé au charme de la mythologie castriste, souvent il s'est pris à écouter les interminables discours du leader Massimo. Le chef de l'État se déclare d'ailleurs disponible pour rencontrer Fidel, même si le programme officiel ne prévoit rien de tel.
Et demain matin, d'ailleurs, la matinale de France Inter se fera en direct de la capitale cubaine. En attendant de goûter au charme de La Havane, François Hollande s'est offert hier un luxe bien rare depuis le début de son mandat. C'est un bain de foule.
Oui, la presse dominicale, dans son ensemble, publie Force Photographie, où l'on voit un président rayonnant embrasser des Martiniquais, et surtout des Martiniquaises. Et c'est vrai que cela faisait bien longtemps que le chef de l'État, recordman de l'impopularité, n'avait vécu de tels mouvements de sympathie. Des bains de foule, Dieu sait qu'il en a pris, lui et Dieu sait qu'il aimait ça, Jacques Chirac est en vacances à Agadir au Maroc. Et en plus du beau temps, l'ancien président pourra se délecter aujourd'hui à la lecture d'un sondage. Mais oui, Jacques Chirac est toujours dans les sondages. Il lui arrive même d'y figurer en tête. C'est le cas pour l'enquête réalisée par Odoxa pour Le Parisien aujourd'hui en France. Elle est consacrée à la popularité de ces hommes, puisque nous attendons toujours une femme à l'Élysée, ces hommes qui ont dirigé notre pays sous la Ve République. Alors sont exclus de l'enquête les deux premiers, Charles de Gaulle et Georges Pompidou. Le sondage considère qu'il reste aujourd'hui trop peu de nos concitoyens pour juger objectivement de leur action. Pour le reste, les deux vainqueurs sont donc Jacques Chirac, 63% des personnes interrogées gardent de lui le meilleur souvenir, et puis François Mitterrand qui le suit de près avec 61% de jugement positif. Derrière, Valéry Giscard d'Estaing, c'est le seul à bénéficier encore de l'affection d'une majorité des Français, 57%. Ses deux successeurs restent dans le rouge, 39% pour Nicolas Sarkozy et 21% pour le visiteur des Antilles. C'est une vraie revanche pour Jacques Chirac, explique Didier Micouane dans Le Parisien. Le temps où Bernadette pouvait dire « les Français n'aiment pas mon mari », ce temps-là est bien loin. Petit rappel, il aura fallu quand même 3 tentatives à Jacques Chirac pour décrocher l'Élysée et avant d'y parvenir, il aura battu quelques records d'impopularité, 11% d'opinion favorable en 1994, quand tout le monde le disait fini. Alors, une question quand même, que retiennent les Français de si positif lorsqu'on les interroge sur Jacques Chirac? Eh bien, outre le côté sympathique et proche des gens qu'on lui prête, ils lui reconnaissent le mérite de quelques grandes décisions politiques, son opposition à la guerre en Irak voulue par les Américains en 2003 par exemple. Didier Micouane rappelle aussi les éléments les plus négatifs de sa longue carrière politique, les emplois fictifs à la mairie de Paris, la dissolution ratée de l'Assemblée nationale. Mais mon confrère du Parisien constate en toute fin qu'à 82 ans, alors qu'il est affaibli par la maladie, la nostalgie fonctionne à plein pour lui. Les détails de ce classement sont donc à lire dans Le Parisien aujourd'hui.
Nous refermions la revue de presse hier avec la lettre ouverte de Jean d'Ormesson au président de la République pour dénoncer la réforme du collège. Eh bien, Najat Vallaud-Belkacem fait ce matin la une du journal du dimanche.
Oui, une ministre seule contre presque tous, titre ce confrère qui consacre à la réforme du collège et au débat, pour ne pas dire à la guerre qu'elle suscite, pas moins de 3 pages, sans compter la une. Dominique de Montvallon constate qu'à 37 ans, après seulement 9 mois et demi passés rue de Grenelle, Najat Vallaud-Belkacem a déjà réussi l'exploit de se mettre à dos à peu près tout le monde. La droite, la plupart des syndicats, presque toute la gauche et la quasi-totalité des éminences universitaires et des intellectuels. Face à ce raz-de-marée, poursuit Dominique de Montvallon, l'intéressé contre-attaque sur un mode qui rappelle Claude Allègre, le pourfendeur du mammouth au temps de Lionel Jospin. Si on me critique autant, c'est sans doute que je touche juste. Et si les conservatismes et les corporatismes me ciblent, c'est sans doute que je suis une vraie réformiste. Une chose est sûre, pour convaincre la ministre du Travail, elle s'en explique dans un long entretien avec Marie Quéné. Interrogé toujours par le journal du dimanche, l'historien Michel Vinocq tempère un peu, même s'il se dit tout à fait opposé à certains aspects de la réforme, dont celle de l'enseignement du latin et du grec. Si les protestations sont aussi violentes, alors même qu'on ignore encore tous les détails de ce projet, c'est parce qu'elles traduisent surtout un questionnement sur l'identité nationale, estime Michel Vinocq. Depuis une 20aine d'années, la société française a été confrontée à des bouleversements sans précédent. Il faut l'accepter, il faut le comprendre. La France ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Vous l'aurez compris, avec cette énième réforme de l'enseignement, nous touchons là un sujet qui va remplir les colonnes de la presse française pendant, disons, un certain temps. Je ne prends pas de risque.
Mais, joli mois de mai, Pascal, surtout en France, le pays des ponts.
C'est un peu le marronnier de saison, un petit peu comme le changement d'heure. Tous les ans, on nous parle de ces ponts du mois de mai qui coûteraient des milliards à l'économie française et qui ferait de nous la risée des laborieux de tout poil qui, hors du boulot, point de salut. Dans sa chronique « La folle semaine de Sud-Ouest dimanche », Christian Seguin nous fait pourtant saliver d'avance, car nous n'avons encore rien vu. Patientez donc jusqu'en 2046.
C'est un peu loin ça.
Vous serez là, moi je n'en suis pas sûr.
Moi je ne crois pas non plus.
Vous pourrez apprécier, car mon confrère bordelais a déjà calculé que cette année-là, le mois de mai, grâce à un calendrier particulièrement favorable, offrira la possibilité de ne travailler que 11 jours. 11 jours payés 31, ce sera quasiment un mois férié, plaisante mon confrère de Sud-Ouest dimanche, vivement 2046.
C'était la revue de presse de Pascal Dervieux.